Je vais parler aujourd'hui de Calvin. La Renaissance des XVe et XVIe siècles a eu pour conséquence de nombreuses crises dans les domaines scientifiques, philosophiques et religieux. Des crises qui furent souvent des progrès remarquables. Elle connut un grand développement des sciences, comme l'astronomie et la médecine. On approfondit l'étude du droit, revue dans l'esprit du droit romain. Nous citons que Michel de l'Hôpital, qui est né au début de ce siècle. Hommes et femmes faisaient des vers grecs et des vers latins. L'imprimerie rendait facile la diffusion de tout ce qui pouvait se lire, du plus sérieux au plus fantaisiste. C'est l'époque de la découverte de l'Amérique. Les nouvelles connaissances mettent en doute des certitudes que l'on croyait issues de la révélation, comme le mouvement de la Terre autour du Soleil. On avait soif d'apprendre. Rabelais nous représente le précepteur de Gargantua, continuant l'instruction de son élève assis sur la chaise percée. Du côté politique, l'Occident renforce sa puissance car l'Empire d'Orient a disparu. L'Espagne, liée à la maison d'Autriche, devient la plus forte, comme le montre la bataille de Lépante en 1571, où fut brisée la puissance turque. Les richesses du Nouveau Monde affluent. Les principautés italiennes deviennent opulentes, comme Venise et Florence. L'Église se voit sévèrement jugée avec la vente des indulgences pour la construction de la basilique Saint-Pierre. Un bien triste exemple qui provoquera la crise de Luther en Allemagne. Mais cette crise n'épargna point la France, notamment des provinces de l'Ouest, Poitou et Saintonge. Vers 1560, on voyait des porteurs de petits livres satiriques tournant en dérision les mauvaises mœurs du clergé et l'altération de la doctrine concernant la justification. Toutes les doctrines d'une église se disant catholique. Les colporteurs étaient souvent des prêtres et des moines défroqués. Ils jetaient leurs livres, souvent imprimés à Genève, par-dessus les murs des couvents. C'était le début de la nouvelle école protestante qui se répandit dans le Dauphiné, le Lyonnais et le pays de Nîmes. Les prédicateurs s'élevaient contre certains gouvernements, comme celui de Marie Stuart en Écosse. Les réformateurs préconisaient de remettre le pouvoir aux autorités civiles dans les mains de consistoires renouvelant l'Église primitive. C'était des républicains avant la lettre. Dans le même temps, des groupes pillaient, voire détruisaient des églises. Ce fut le cas pour la cathédrale d'Anvers. Le culte prend un caractère de rigueur, plus de mystique. C'est le règne des puritains. De Genève, le mouvement se répandit en Écosse, en France, en Hollande, où il prit le caractère d'une révolte contre l'empereur Philippe II, successeur de Charles Quint. Cela aboutit à l'indépendance des Provinces-Unies. Calvin, qui est né en 1509 et mort en 1564, il a vécu pendant ce siècle, n'avait ni le cœur ni la chaleur de Luther. C'était surtout un dialecticien. C'était un petit homme maladif, toujours replié sur lui-même. Ses camarades le chansonnaient, lui disant « Tu es l'accusatif ». Il fit des études de droit à l'université de Bourges. Il étudia le grec et se fixa sur la doctrine de la justification. Un auteur a dit de lui « Il règne dans ce caractère quelque chose de droit, mais il n'est pas sympathique. Ce n'est pas une âme que l'on a plaisir à fréquenter. » Né dans une famille d'artisans, son père était greffier communal et secrétaire de l'évêque. Juriste, il prévoyait pour son fils une carrière similaire. Sa mère, très pieuse, l'emmenait souvent à l'abbaye voisine, prier sur les reliques de Sainte-Anne. Jean Calvin était froid, résolu et méditatif. C'était un étudiant rigoureux. En 1524, il avait 15 ans, il entra au collège Montaigu où il fut soumis à une discipline très stricte. Les étudiants étaient mal nourris, refusant à leur corps tout confort, même celui d'une hygiène élémentaire. Outre le jeûne, ils étaient soumis au silence et travaillaient de l'aube à la nuit, subissant avec humilité les peines encourues par le moindre manquement à la discipline. Sans qu'il fût prêtre, Calvin obtint un bénéfice ecclésiastique de l'église de Noyon en 1527. Il avait 18 ans. Il commença à sentir quelques doutes sur cet intégrisme théologique. Comme il l'écrivit plus tard, il se sentait extrêmement subordonné aux superstitions sur de la papauté. Il réagit en prêtant l'oreille aux propositions des réformateurs et en se rapprochant des luthériens et des discours des humanistes interprétant librement les Écritures. En 1523, il tomba sous l'influence de Lefèvre d'Étaples et des réformateurs germaniques. En 1534, il résigna tous les bénéfices ecclésiastiques, ne voulant plus donner adhésion à la doctrine romaine, qui était à ses yeux commettre une faute grave. Il considérait les superstitions de la papauté comme un profond bourbier. Calvin se retira à Bâle, car François Ier avait décidé d'exiler tous les sectaires capables, selon lui, d'attenter à la majesté royale. C'est à Bâle qu'il publia en 1536 son Institution de la religion chrétienne, ouvrage fondateur du calvinisme. Et en envoyant un exemplaire à François Ier, considéré par lui comme un néophyte de bonne volonté. L'ouvrage comportait 516 pages. Pour les partisans de la réforme, c'était là le véritable catéchisme pour adultes. Calvin finit par se retirer à Genève, où il reçut un accueil triomphal en 1541. Il fit adopter par la République locale un ensemble d'ordonnances ecclésiastiques dont le préambule incitait chaque fidèle à la stricte observance des prescriptions inspirées par la loi divine, interprétée selon l'esprit calviniste. Comme on a pu le dire, la République locale était transformée en un vaste couvent laïque, proscrivant les festins, les bals publics ou privés, veillant à la bienséance, veillant au costume, épurant le contenu des bibliothèques, etc. L'austère calviniste allait loin au-delà, bien au-delà des luthériens. Passons brièvement sur le mariage de Calvin avec Idelette de Bure, qui l'entoura d'un amour paisible jusque dans ses derniers moments, et sur l'affaire Servet, qui tentait de revenir à un certain gnosticisme. Michel Servet était l'apôtre d'une bienveillance divine envers tous les croyants, tous, croyants ou non d'ailleurs, ce qui était jugé par Calvin comme blasphématoire. Servet fut finalement condamné au bûcher, toujours en vigueur. Mettons que le bûcher a longtemps été en vigueur, environ 100 ans plus tard, ce fut le tour de la marquise de Brinvilliers, dont Madame de Sévigné disait qu'elle respirait les cendres en se promenant dans la terre. Dans les rues de Paris. La marquise de Brinvilliers avait été condamnée à la suite de l'affaire des poisons. En conclusion, quelles sont les grandes différences entre le protestantisme et le catholicisme issu du Concile de Trente? Prenons quatre points. Premièrement, l'Eucharistie. C'est de loin le sujet doctrinal le plus important. Le Concile de Trente a confirmé le dogme de la transsubstantiation, selon lequel il n'existe dans l'hostie qu'une seule substance, le corps du Christ. Les luthériens affirment que la substance du corps du Christ s'ajoute à celle du pain sans la détruire. Il s'agit bien d'une présence réelle, mais partielle, pourrait-on dire. L'opinion de Calviniste va beaucoup plus loin, allant jusqu'à parler d'une présence symbolique, ai-je entendu dans la bouche d'un pasteur calviniste. On peut remarquer que l'Eucharistie est un élément essentiel de notre vie spirituelle, en quelque sorte son cœur. Deuxièmement, la communion des saints. Luthériens et calvinistes prêchent que seule la foi compte. En particulier chez les calvinistes, les âmes des défunts n'ont plus rien de commun avec nous, entendu lors d'un enterrement calviniste. Les prières pour les âmes du purgatoire sont superflues, ainsi que la dévotion envers les saints. Il n'y a plus ni procession ni litanie. C'est la fin des superstitions. On ne chante plus le Dies Irae aux enterrements. Remarquons le nombre croissant de prénoms empruntés à l'Ancien Testament ou à la mythologie, puisqu'il n'y a plus de saint patron. J'ai même entendu parler d'une petite fille prénommée Salomé, le nom de la danseuse érotique qui obtint la décollation de saint Jean-Baptiste. Je ne sais pas ce qu'en a pensé son saint patron dans la tombe. Troisièmement, la Sainte Vierge. La mère que Jésus nous donna sur la croix est absente. Notre avocate est au placard, comme nous pouvions dire. et on, comme si on pouvait se passer d'une mère et d'une avocate. Ils doivent se sentir bien seuls, les protestants. Quatrièmement, l'iconoclasme. Il est surtout le fait des calvinistes. Les luthériens ont gardé les sculptures des églises qu'ils ont transformées en temples, même s'ils n'en ont guère fait de nouvelles. Mais on le constatera en Allemagne, notamment à Nuremberg. Les calvinistes ont tout éliminé. Avec la Révolution, les guerres de religion ont été les grandes dévastatrices, et cela pendant que l'art baroque couvrait les églises d'un vol d'angelots. Telles sont les quelques conclusions que j'ai pu récolter auprès des protestants qui restent malgré tout nos frères car rachetés par le sang du Christ. Que Dieu et Notre-Dame agissent vite pour que nous nous retrouvions enfin dans le même troupeau, sous le même berger, avec la même mère.